Une enquête fouillée a permis de déterminer qui avait dénoncé le nageur toulousain Alfred Nakache.
Qui a dénoncé Alfred Nakache? C'est le titre du livre d'Yves Pourcher, professeur émérite de Sciences Po Toulouse. Il est en ligne avec nous. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors, vous avez mené une enquête minutieuse sur la dénonciation d'Alfred Nakache, qui a entraîné sa déportation à Auschwitz avec sa femme et sa fille. Seul le nageur a survécu. Quelques mots peut-être avant d'entrer dans cette enquête que vous avez menée. Quelques mots sur Alfred Nakache. Donc, c'était un célèbre nageur. Il est né en Algérie, à Constantine. Et puis, il rejoint Paris et il se distingue par ses performances de natation. Comme il est juif d'Algérie, il avait acquis la nationalité française, mais il la perd le 7 octobre 1940 et s'installe donc à Toulouse, qui était à l'époque, en 1940, encore en zone libre. Pourquoi, Yves Pourcher, vous êtes-vous emparé de ce sujet de Nakache?
Parce qu'il existait plusieurs ouvrages qui avaient cherché, ou en tout cas qui désignaient un possible délateur, c'est-à-dire celui qui aurait dénoncé Nakache. Mais malheureusement, on n'avait pas de preuves. On ne trouvait pas la... Et d'ailleurs, la preuve n'existera jamais. Et donc, j'ai trouvé que c'était difficile, d'abord, de désigner quelqu'un sans savoir. Et il fallait chercher. Donc, j'ai cherché un peu dans différentes sources. Et j'ai découvert des sources absolument extraordinaires qui sont des sources conservées par la justice militaire, parce que un nageur, justement, avait été accusé de dénonciation. Un nageur et son père. Et là, pour la première fois, parce que les juges militaires ont fait un travail très fouillé, on a des témoignages, on a plusieurs témoignages d'Alfred Nakache lui-même qui raconte son arrestation, qui raconte son interrogatoire par la Gestapo et qui apporte des sources absolument nouvelles. Par exemple, il dit « L'inspecteur de la Gestapo qui m'interroge me dit « Nous avons reçu 25 lettres de dénonciation nous concernant » et donc nous sommes obligés de sévir. Donc l'existence de ces 25 lettres de dénonciation posait un problème général, parce que s'il y a 25 lettres de dénonciation, il y a 25 coupables qui, au même moment, ont pu dénoncer Nakache.
Ou bien 25 lettres de la même personne ou de plusieurs personnes, mais peut-être un peu moins, qui se sont fait passer pour davantage.
Oui, ou tout simplement... Une technique d'interrogatoire des agents de la Gestapo,
aussi,
qui étaient des tortionnaires, il faut bien le rappeler, qui voulaient humilier et terroriser les gens qu'ils interrogeaient. Et donc, en leur disant, voyez, tous vos compatriotes vous dénoncent, une grande partie de vos compatriotes. Donc, vous êtes rejetés en tant que juifs du corps social français. Donc, il est normal que nous, Allemands, nous, nazis, nous intervenions.
Oui, c'est ça, par souci de justice. Alors, vous avez consulté toutes ces archives militaires, professeur Yves Pourcher. Est-ce qu'il y a d'autres archives auxquelles vous avez eu accès et qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été ouvertes?
Alors, il y a plusieurs procès, parce que en vérité, le problème se situe dans l'univers de la natation. Et c'est ce qui est très intéressant, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on prend un problème général, qui est celui de la France occupée par les nazis. Alors, il y a plusieurs contextes. C'est-à-dire qu'il faut dire que Toulouse a subi véritablement l'occupation allemande à partir de novembre 1942, quand les Allemands rentrent dans la zone libre. Et c'est là où tout va basculer. Parce que jusqu'à présent, Nakache, qui était apatride, qui était réfugié, n'a jamais été inquiété véritablement par le régime. Il était protégé même par des hommes de Vichy. Mais à partir de là, la Gestapo s'est installée à Toulouse et les conditions d'existence sont terribles. Toulouse est en effervescence, la résistance est organisée, elle agit, et la répression allemande est absolument d'une brutalité redoutable. Donc à partir de là, se met en place des choses. Donc l'univers de la natation, vous avez plusieurs noms qui apparaissent. Le principal, c'est Jacques Cartonnet, qui a été désigné, qui était un rival de la natation. Il s'était affronté sur le plan sportif, pas sur le plan politique. Mais après, Cartonnet est devenu un antisémite virulent. Il cassait les vitrines des magasins juifs à Toulouse. Et il était notamment engagé dans une organisation militaire et de police qui s'appelle la milice. Et donc, il agissait contre les juifs. Donc, Cartonnet, possible.
Oui, d'autant plus que dans votre livre, vous dites bien que Nakash a rédigé une lettre à Buchenwald en 1945, donc juste avant sa libération. Et il cite ce nageur, mais il dit bien qu'il n'a pas de preuves.
Voilà, alors Nakash, lui, s'est posé la question, bien entendu, de la dénonciation. Il s'est dit qu'il a des soupçons, mais il n'a lui-même aucune preuve. Et entre les soupçons, on peut imaginer que quelqu'un, que le voisin vous a dénoncé. Mais en vérité, c'est quelqu'un de différent qui vous a dénoncé. Donc il y avait Jacques Cartonnet, il y a un autre nageur qui s'appelle Roland Gibel, qui lui-même était intégré dans la milice. Et puis, il y a des tas de gens qui agissaient. Par exemple, il existait un commissariat aux affaires juives avec une personnalité très sombre qui s'appelle Serge Krotov, qui arrêtait, bien entendu, et qui organisait eux-mêmes la délation. Donc, vous avez plusieurs procès qui s'accumulent. Oui. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai tiré la chaîne Cartonnet. Bon, j'ai regardé le procès Cartonnet. C'est un procès en contumace, c'est-à-dire que Cartonnet, quand la libération arrive, il est parti. Il s'est réfugié en Allemagne et puis il est réfugié en Italie, donc il n'est pas là. Donc son témoignage est absolument absent. Gibel, il y a un procès et Nakash lui-même va dire non, ce n'est pas possible que ce soit lui. Mais en vérité, c'est peut-être aussi lui, on ne le sait pas. Et puis il y a Roland Pallard et son père. Alors là, le dossier est beaucoup plus important. Parce qu'à la dénonciation personnelle se mêle aussi une dénonciation d'un organisme de résistance qui s'appelle les Légions Anti-Axe, à laquelle, à cette organisation, Nakash appartenait. Voilà. Et cette organisation envoyait des menaces de mort aux gens qui étaient des collaborateurs. Donc Nakash a fait partie de cette organisation. Donc on pouvait imaginer aussi...
Que ce soit à ce titre.
Nakash était dénoncé pour des faits de résistance.
Oui. Et d'ailleurs, dans le texte de son arrestation, on dit bien qu'il a été arrêté par la Gestapo donc le 21 décembre 1943 pour chef de la propagande gaulliste à Toulouse, mais aussi trafic d'or et de diamants et aussi passage de dissidents entre la France et l'Espagne. Donc en fait, officiellement, on ne dit pas qu'il est arrêté parce qu'il est juif.
Voilà, alors tout simplement... Parce que les Allemands inventent des motifs d'arrestation, c'est-à-dire c'est de la mise en scène. Ils sont dans une répression, je l'ai dit, qui était absolument terrible. Donc ils accumulent les chefs d'accusation. C'est très ordinaire. On n'imagine pas Nakash faisant du trafic d'or et de diamants, c'est absolument impossible. Le passage, d'autant plus que Nakash lui-même dit dans son témoignage, il dit « moi, du point de vue... de la résistance, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fourni quelques listes, mais je n'ai pas participé directement à ce qu'on pouvait appeler la résistance. »
Oui, mais il avait été quand même approché, et voilà, et il a un petit peu participé, mais de façon très épisodique et très discrète.
Si, la seule chose qu'il a pu faire, c'est entraîner des gens qui est entré dans ce qu'on a appelé l'armée juive. Voilà, ça il a entraîné, puisque Nakash avait un gymnase, rue Ferral, et donc il organisait l'entraînement physique, et donc il a reçu des gens qui s'engageaient dans la résistance. Voilà, c'est essentiellement
sa seule participation
à la résistance.
Il a quand même eu, Alfred Nakash, le projet de fuir en Espagne, parce qu'il a dû sentir quand même des menaces. Est-ce que... il s'est senti protégé parce qu'il était quand même champion de natation. Il avait quand même battu le record de France, d'Europe et du monde du 200 mètres nage libre. Est-ce qu'il y a un moment où il s'est senti protégé comme champion de natation par toute cette famille de la natation?
Oui, alors ça vous posez vous mettez le doigt sur le côté absolument terrible, c'est-à-dire Nakash était un héros, un champion de la natation. C'est lui qui, du point de vue français, gagnait absolument tous les records. Il a, en 1941, il gagne le championnat du monde. Donc, les autorités de Vichy, le Vichy d'avant novembre 1942, accueillaient Nakache comme un héros. Il avait participé à des tournées de propagande du régime organisées par le commissaire au sport Jean Borotra, qui était le célèbre
tennisman.
Voilà. Et donc, il était la vitrine du sport français et de la propagande coloniale du régime de Vichy. Donc, certainement, Alfred Nakache, qui connaissait le préfet délégué, le commissaire au sport, s'est dit, mais moi, je ne serais pas touché directement. On peut imaginer ça. Et donc, on ne peut pas lui reprocher. Il n'a peut-être pas été assez prudent, oui, notamment dans une entrée en clandestinité, etc. Alors, le passage en Espagne, ce n'est pas si facile que ça. Certes, il y a pensé. Moi, il y a une chose absolument terrible que je ne m'explique pas, parce que pendant l'été 43, au moment du championnat de France, Nakache, qui a été écarté, s'est réfugié en Corrèze. Il le dit lui-même, je me suis réfugié en Corrèze. Pourquoi revient-il à Toulouse en octobre 43, alors que la situation est absolument impossible et que les arrestations de juifs se multiplient jour et nuit? Voilà. Donc,
ça reste mystérieux alors.
Est-ce qu'il est venu parce que justement il avait ce projet de passer en Espagne et donc il fallait bien se rapprocher de la frontière,
oui.
Ou est-ce que justement il s'est dit, mais moi je ne serais quand même pas touché par les rafles ou par les arrestations.
Un mot quand même sur son internement à Auschwitz, puisque Nakache a été contraint de nager dans une eau glacée. Il nage aussi à l'insu de ses gardes il était surnommé le nageur d'Auschwitz. Qu'est-ce que ça nous dit du caractère de ce champion?
Parce que évidemment c'était un combattant, enfin je veux dire un combattant du sport, voilà. Quelqu'un qui avait besoin, la natation faisait partie de sa vie, et pour tenir dans des épreuves qui sont innommables, et même d'ailleurs aujourd'hui on n'arrive pas du tout à se représenter. Vous pouvez penser Auschwitz ou la déportation. Moi je trouve d'ailleurs que écrire sur Auschwitz du point de vue de la fiction ou du roman, c'est absolument impossible, quoi. On a suffisamment de témoignages pour arriver à comprendre. Et donc, Nakache, pour survivre, avait besoin de l'eau, voilà, avait besoin de l'eau et de nager. Et donc, il a nagé dans des conditions absolument extrêmes et absolument impossibles.
Et justement, cette natation a été sa planche de survie aussi, sa planche de salut, si on peut dire, quand il est revenu d'Auschwitz, puisque quand il rentre à Toulouse, il ne sait pas encore que sa femme et sa fille sont mortes juste en arrivant, à leur arrivée au camp. Et puis, il reprend la natation malgré un état physique extrêmement dégradé, puisqu'il a perdu des dizaines de kilos.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il faut imaginer le retour des gens qui sont déportés, surtout ceux qui reviennent d'Auschwitz. Enfin, je veux dire, c'est des miraculés. Il n'y en a que quelques-uns par rapport aux milliers, aux millions qui sont passés là. Donc, ils sont des survivants. Oui. Et revenir à la vie alors qu'il attend sa femme, sa fille, parce qu'on ne sait pas, enfin, je veux dire, il faut imaginer, personne ne sait, personne ne comprend exactement ce qui s'est passé. Il va falloir des mois, des années pour se représenter la solution finale. Et donc, alors Alfred Nakache est entouré, il est accueilli par ce grand club qui est le TOEC.
Oui, les dauphins du TOEC à Toulouse.
Voilà, les dauphins du TOEC, ils le prennent en main, des gens comme Mainville, l'entraîneur, comme Jani, etc. Ils vont l'entourer pour lui dire, il faut que tu reprennes la natation, parce qu'il n'y a que ça qui te sauvera. Il le fait, il arrive. Alors que quand vous reprenez les bulletins médicaux d'Alfred Nakache, que j'ai vu, moi, dans ses dossiers, notamment militaires et autres, il est très affecté physiquement. Il a perdu 20 kilos, mais plus que la perte des kilos, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne retrouve pas. Voilà, donc il ne retrouvera jamais. Et il va avoir cette volonté de revenir. Il va participer aux Jeux Olympiques de Londres en 1948. Et il va se tourner, parce qu'il est né en 1915, donc il commence déjà à être âgé, il va aider les jeunes nageurs, et il va éduquer. Et la véritable leçon de Nakache, c'est une leçon de professeur, voilà, parce qu'il a toute sa vie, il a voulu être un enseignant et il va le rester jusqu'à sa mort.
Leçon de professeur et puis leçon de résilience et de courage. Merci beaucoup Yves Pourchet, professeur émérite à Sciences Po Toulouse. Je rappelle le titre de votre livre, Qui a dénoncé Nakache, aux éditions Gossen, et on comprend bien qu'il n'y a pas de réponse définitive à suivre dans votre livre. Merci beaucoup.
Merci.